bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas au micro. C'est la première émission du mois d'avril. Là, ça va tellement vite, là, rapidement comme ça. On va essayer de... Notre invité est déjà au bout du fil en duplex de la France. Voilà. Et puis, on va parler de... C'est un globetrotter, c'est un troubadour, c'est un monsieur qui s'habille de la couleur de reggae qui parcourt le monde entier. Beaucoup de collaborations. Il va nous présenter le ticket pour mars. Voilà, c'est déjà sorti, hein, depuis le 23e mois 2026, c'est-à-dire le 20 mars, David Carroll, avec son acolyte Tyro. Voilà, reggae man enraciné, globetrotter passionné qui n'a cessé de tisser des liens avec les artistes et cultures qu'il a rencontrés au gré de ses dernières tournées d'ailleurs. Le single Building Bridge, qui est devenu son hymne et a inspiré cette nouvelle série de EP Bridge, à ben premier Pacific Bridge, et puis bon, ben le voici à présent. Aux côtés d'artistes français avec qui il a créé d'étroites connexions sur French Bridge. David.
Oui, bonjour à tous.
Ah oui, d'où vient cet amour, bien ce mariage avec le reggae? Depuis quand tu as découvert la musique reggae?
Le reggae, ça a été... J'avais 14 ans en fait, je partais en voyage scolaire en Angleterre.
Oui.
Et j'avais prêté l'album de Lenny Kravitz à un ami à moi.
Oui.
Et je lui ai dit, tu me ramènes l'album pour le voyage, j'ai envie de l'écouter et tout. Et en fait, il est arrivé et puis il m'a passé... Notre CD, c'était qu'on faisait des copies à l'époque, hein, c'est pas très bien dire ça, mais
oui.
Et du coup, et en fait, j'ai mis ça dans mon Walkman, et en fait, j'ai mis sur mes oreilles, j'ai mis, c'est quoi, c'est pas Lenny Kravitz, c'est pas le blog que je t'ai passé, et il m'a dit, ah merde, c'est pas, il a pris le truc, il a dit, ah mais non, c'est désolé, c'est pas de Marley, je me suis trompé. Et en fait, ça a été l'erreur la plus belle qu'il ait faite de sa vie, je pense, en tout cas pour moi.
Oui.
Parce que ça, j'ai mis ça donc sur mes oreilles, j'ai pas lâché l'écoute pendant tout le voyage, je l'ai mis en boucle et ça m'a vraiment foudroyé. Ça a été vraiment un tournant dans ma vie parce que ça m'a tellement parlé, touché la musique. Alors je comprenais pas toutes les paroles, mais j'essaie de comprendre.
Et c'est pas important.
La musique,
oui.
La vibration quoi en fait. Et après voilà, j'ai découvert le message derrière ça.
Oui.
Et donc j'ai au fur et à mesure. Écouter de plus en plus de titres de Bob Marley, tous ces albums que j'avais pas écoutés. Je découvrais vraiment, en fait. Et par la suite, bah, quand j'avais épuisé le stock, j'ai commencé à découvrir un peu la forêt qu'il y avait derrière l'arbre. Et j'ai découvert tout ce qu'il y avait, tous les artistes reggae qui ont été aussi légendaires dans cette musique. Et voilà, c'est cette musique-là, en fait, qui m'a vraiment tellement touché, qu'elle m'a donné envie d'écrire par moi-même mes premiers textes quelques années après.
Là, je prends la balle au bon. Et avant de découvrir ça, quel genre de musique tu écoutais? Et puis, bon, ben, est-ce que tu faisais déjà de la musique? Est-ce que tu jouais un instrument ou bien tu fredonnais déjà sous la douche?
Alors, je chante. En fait, je chantais depuis tout petit, mais ma mère n'a jamais vraiment prêté attention à ça.
Oui.
Je chantais depuis tout petit et j'écoutais beaucoup de musique, souvent avec mon père et ma mère dans la voiture.
Oui.
Et donc, les premiers albums que j'ai écoutés, alors, avec ma mère, elle avait un album de Police. Il y avait une touche reggae quand même. Hein.
Oui.
Il y avait Police, voilà, il y avait Superchamp.
Oui.
Voilà, mais après, voilà, c'était des artistes qui n'étaient pas du tout dans le milieu du reggae, on va dire. Et puis après, j'ai découvert Jimi Hendrix. J'étais vraiment très fan de Jimi Hendrix.
Oui.
Du coup, Lenny Kravitz, c'était un peu l'héritier aussi, donc j'ai beaucoup écouté Lenny Kravitz. Et aussi, comme j'ai fait beaucoup de basket, j'ai écouté beaucoup des hip-hop aussi.
Ouais.
Beaucoup de rap US, comme Wu-Tang Clan, Public Enemy,
oui.
De La Soul. Voilà, tous ces artistes-là des années 80-90, en fait.
Oui, oui. Wow.
Voilà, c'était mon influence avant d'arriver au reggae. Donc c'était plus ou moins des musiques cousines, parce que c'était de la musique noire, quand même.
Oui.
Mais, j'avais pas eu la vibration encore du reggae qui m'avait touché.
Oui, oui, c'est venu déclencher quelque chose. Ça a été un coup de foudre, comme tu l'as dit au début de notre conversation.
Oh, ouais, vraiment, vraiment.
Mm-hmm. Alors, à partir de là, maintenant, donc, tu as commencé à rencontrer physiquement, disons, personnellement, des artistes du milieu reggae.
Quels sont ceux
que tu as rencontrés et qui sont ceux qui ont pu t'influencer? Ceux que tu as pu rencontrer ou bien que tu as pu aller voir en spectacle ou bien... Je sais pas. Voilà, il y a du tout là-dedans.
En fait, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux artistes reggae, parce que c'est vrai que les premiers concerts reggae que j'ai vus, le premier concert reggae que j'ai fait, je suis parti avec mon beau-père, il m'avait offert ça. Je crois que c'était pour mon anniversaire, on avait été voir un hommage à Marley, en fait, et dans ce concert-là, il y avait les Wailers, il y avait Jimmy Cliff,
Oui.
Il y avait les enfants de Bob Marley, il y avait Buster
Waouh.
Carlton, enfin voilà.
Tu pouvais pas
C'était.
trouver mieux que ça, quoi.
Ouais, c'était fou. Donc là, j'ai pris quand même une sacrée claque. Et puis, voilà, même si Bob Marley n'était pas là, son âme était là et il y avait quelque chose de fort. Donc ça a été vraiment une première expérience de concert reggae qui m'a marqué.
Ouais.
Et après, dès que j'ai eu 18 ans, bah, j'étais voir pas mal de concerts pendant mes études. Donc j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vu Scratch Perry, j'ai vu qui c'est que j'avais vu Blayatov, Mighty Diamond,
C'est pas
Pablo
vrai.
Mondi, j'en ai vu Burning Spear, Israel Vibration, tous ces artistes-là, Buju Banton. Énormément, énormément, énormément. Je me suis nourri, avant vraiment d'entendre de la musique, je me suis nourri de ça. En fait, vous savez, je jouais pas d'instrument pour faire un peu le lien avec ce que je disais avant, je jouais pas d'instrument, je
Oui.
chantais comme ça, et puis voilà, en écoutant beaucoup de musique que j'ai, à un moment, c'était tellement fort que j'ai voulu chanter des textes que j'avais écrits.
Et te faire
Et
accompagner par un instrument.
ouais, et pas tout de suite en plus, c'est assez fou, mais en fait, quand j'ai 19 ans, en fait, j'ai eu une chaîne hi-fi chez moi, et on pouvait brancher un micro dessus. Et on pouvait les lecteurs cassettes, les lecteurs CD. Et en fait, j'avais des vinyles que j'avais commencé à collectionner un petit peu, des petits vinyles de 45 tours. Et en fait, j'ai commencé à copier les faces B des vinyles de reggae sur des cassettes.
Oui.
Et j'enregistrais sur la deuxième cassette ma voix. Donc je faisais, en fait, sans faire vraiment, sans le vouloir, en fait, j'avais créé un peu mon home studio et en mode sound system, quoi. Donc je chantais sur des dubplates, ou des dubs, des versions dub, mes textes que j'avais écrits.
Wow.
La première personne qui a écouté ça, en fait, c'était ma grand-mère, dont je porte le nom en tant
La
qu'artiste de
mamie.
Kerol. Oh ouais, ma mamie. Ma mamie, elle était fan de Bob Marley. Ma mamie, elle était fan de Bob Marley, c'est assez fou, mais c'était une personne assez rebelle.
Ok, je comprends, oui.
Ouais, voilà, elle a été vraiment. Elle a beaucoup participé à mon éducation, et puis quand je lui ai dit que j'écoutais Bob Marley, elle me dit, mais tu sais que je suis fan et tout. Et en fait, on écoutait du reggae chez
Mais
elle,
ça,
dans
tu ne
son
savais
jardin.
pas.
Non, je savais pas en fait, non, pas du tout.
C'était
Non, parce qu'on n'avait
son
jamais
petit
vraiment
jardin
parlé.
secret, quoi.
Ouais, mais sans doute en fait. Et elle adorait ça, donc en fait, j'ai acheté même des albums que vous écoutez. J'avais acheté une petite chaîne hi-fi, un petit Ghetto Blaster.
Oui.
Et du coup, non, on a partagé ça. Et puis un jour, elle est montée dans ma chambre, je lui ai fait écouter en fait ce que j'avais produit. Puis elle me dit, bah, tu sais, t'as une voix, hein. Tu sais que tu continues un peu à creuser là-dedans. Et voilà, puis j'ai creusé, et puis par la suite j'ai fait écouter bien plus tard à des amis qui avaient des potes musiciens, et c'est comme ça que j'ai commencé à tisser des liens avec des musiciens, quoi.
Oui.
Voilà.
Est-ce que ça a été facile pour toi de faire le choix de l'instrument auquel tu voulais jouer? Que tu voulais apprendre.
Bah en fait, oui, parce que pour moi la guitare, bah, je voyais tous les artistes que j'aimais jouer de la guitare.
Oui.
Donc c'est vrai que avant d'écrire des textes, j'avais quand même demandé, j'avais demandé, ouais, comme cadeau d'anniversaire, une guitare quand j'avais 16 ou 17 ans, mais je savais pas en jouer, j'ai pas pris de cours, donc je l'ai laissé de côté. Et quand j'ai commencé à faire de la musique vraiment,
Oui.
je me suis repenché dessus, et c'est un des musiciens avec qui j'ai travaillé, c'était un peu le deal en fait, parce qu'on a commencé à travailler sur mon morceau. Moi, je savais pas jouer, lui, il a pas voulu continuer la musique parce qu'il avait d'autres. Voilà, chose à faire dans la vie, quoi, en fait.
Oui.
Et donc, en fait, j'ai dit, bah, le deal, si tu arrêtes la musique avec moi, tu m'apprends mes morceaux. Et donc, j'ai appris la guitare sur mes propres morceaux. En fait, j'ai même pas fait des reprises, quoi.
Wow.
Ça s'est fait comme ça, quoi, en fait. Voilà. Et la guitare, du coup, est venue naturellement. Puis, en plus, c'est quelque chose, voilà, de facile
C'est une question de feeling aussi, quoi.
ouais, de feeling, on a contre soi, c'est aussi quelque chose d'assez. Personnel et intime, et puis surtout aussi la facilité de pouvoir apprendre n'importe où quand on veut pour composer ou partager avec les autres, quoi.
Donc
Donc ça a été, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers concerts quasiment guitare-voix, quoi.
je savais que j'avais
Ouais.
découvert. Je savais que tu avais de quoi raconter.
C'est
Je
vrai que
savais
du
que
coup
tu avais de
j'ai
quoi raconter.
fait.
Alors, avant
Non, mais.
d'écouter,
Ouais.
comment dirais-je, avoir quelques notes de Mars, la question, comment que la rencontre s'est faite avec Tayro?
Tayro, alors en fait, vous le citiez juste avant au début de l'émission, j'ai un titre Building Bridges
Oui.
qui est sorti en 2021 et qui a eu une belle visibilité en fait, et c'est devenu, et c'est vrai en effet pendant les concerts, c'est la chanson que les gens adorent, et ça a été un peu mon hymne en effet.
Oui.
Et donc un jour sur Instagram, en fait, ben, je reçois un message et c'est Taïro qui m'écrit, il me dit, j'adore ton morceau et j'aimerais vraiment, si c'est possible pour toi, qu'on travaille sur l'écriture de morceaux pour mon prochain album.
Et comment tu as réagi?
Et ben, j'ai hyper flatté parce que moi j'écoutais Taïro depuis un petit moment
Oui, parce
depuis
que
mes 20 ans.
c'est un vieux routier là dans le milieu du reggae aussi.
Ben, il est là depuis longtemps en fait, en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, moi j'avais écouté depuis la BO de Taxi
Oui.
à l'époque. Et ouais, j'étais fan. Pour moi, c'était un peu le style de la Kalanji français, quoi.
Oh, c'est ça.
Et ouais, il avait vraiment ce truc-là, cette vibe. Et du coup, je l'ai super bien pris, bien sûr, j'étais flatté. J'ai dit merci, merci,
Ouais, c'est
je
très
suis fan de ce que tu
flatteur.
fais.
C'est très flatteur.
Voilà. Donc j'ai honoré la proposition, bien sûr.
Oui.
En fait, lui, il avait écouté ce morceau-là, parce que mon producteur l'avait diffusé. En fait, son saxophoniste, c'est mon producteur, en fait.
Ah bon, d'accord.
Et c'est
OK.
aussi. Et il produit aussi des titres pour Taïro. Du coup, il avait eu vent de ma musique comme ça. Et c'est comme ça qu'il a pris contact avec moi. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à travailler. Et un jour, il était en studio avec mon producteur, donc Mathieu Boss, il s'appelle.
Oui.
Et il était à Paris, puis il a fait écouter des titres que j'avais déjà produits pour mon prochain album, en fait, dont ce Ticket pour Mars. Et il a flashé dessus. Et il m'a dit, en plus des titres sur lesquels on a travaillé ensemble, j'aimerais bien, si tu veux, le mettre sur mon album. Et je t'invite sur l'album. Voilà. Et du coup, j'ai dit, bah, ok, je suis partant, mais moi, je veux aussi le sortir sur le mien. Donc, si tu veux, on sortira chacun notre version du titre. Donc, lui, il l'a mis sur son album et moi sur mon EP là, qui sort cette année. Voilà. Avec chacun les versions différentes.
Wow. Alors, comment se sent le jeune David, originaire de la côte basque, qui, 10 ans plus tard, avec ce style de reggae qui est ouvert, voyageur, globetrotter de la France à Kingston, collaborer avec des figures majeures, et comment il se sent aujourd'hui?
Ben, je me sens quand même bien, dans le sens où. J'ai quelque chose qui s'est libéré en moi par le fait que j'ai un peu eu l'aval de mes pères, parce que c'est vrai que la musique, voilà, pour se sortir du lot, ce n'est pas sortir du lot, mais en tout cas d'en vivre, que la musique soit partagée, écoutée, qu'on puisse faire des concerts,
Oui.
ben, ça met du temps. Et c'est vrai que des fois, ben, on a des moments de doute et tout ça, mais c'est vrai que d'avoir eu l'aval de mes pères, qu'ils soient jamaïcains ou français, aujourd'hui, c'est vraiment une libération et je dois dire que je me sens assez apaisé et heureux en fait de ce que je peux vivre et partager à la fois avec les artistes avec lesquels je travaille, mais
Oui.
aussi avec le public. Et ça, c'est un vrai bonheur. Ouais.
Bravo à toi et
Merci
à toute
beaucoup.
l'équipe derrière et
Merci beaucoup.
surtout avec Tairo qui t'a contacté pour bien vivre la collaboration. On y va, on écoute. Ticket pour Mars.
Ouais.
Monsieur le prolifique, une chose me fait tiquer. J'aimerais vraiment que tu m'expliques où vous irez, toi et ta clique, le jour où tout aura foutu le camp.
Hey, monsieur le diligent, toi qui changes tout le temps de camp et de direction, pourquoi maintiens-tu le cap vers le néant? Allez, dis-moi, c'est quoi ton plan?
Dois aussi penser à tes enfants. Ne sont-ils pas de toi pour que tu t'en balances comme des gens qui n'ont pas toi ni de quoi, ni de ton sang.
C'est sûr qu'on n'est pas du même monde, mais tu serais pas quand même un alien, un lézard ou même la bête immonde sortie tout droit d'une sonde. Vas-y, faut que tu me réponds.
As-tu déjà ton ticket pour Mars? Vois que la banque ils se font comme un compte-goutte. As-tu placé tes fonds dans un compte en soute? Allez, vas-y, dis-moi, je t'écoute.
On n'a pas les mêmes plages au mois d'août, mais sur nos pieds, c'est bien de ton mazout. Je suis dans une colère noire quand tu vois le prix que ça coûte. J'espère pour toi que pour tailler ta route.
T'as déjà pris ton ticket pour Mars.
Voilà, c'est les duos que vous venez d'entendre comme ça. C'est la voix de David et de son pote Tairo. Bien sûr, c'est les tickets pour Mars. Bravo, bravo à toi et à ton collaborateur, à ton complice.
Ouais,
qui est aussi c'est un globe-trotteur comme toi. J'aime tout ce que j'ai écouté beaucoup de pieds, tes anciens tubes aussi, tout ça, tes collaborations, ouais. Surtout les tubes là avec Yellow Man. J'ai dit, mon Dieu, il a même collaboré avec Yellow Man.
Ouais. Ouais, mais... c'est assez fou. Même moi, c'est hallucinant aussi. Hein.
Ouais.
Yellow Man, c'était quelque chose. C'est lui aussi qui m'a contacté par Instagram. C'est un truc de fou.
Tu t'imagines, Yellow Man qui contacte le petit David de la côte basque, le petit basque.
Ouais,
allez-y, comprendre quelque chose. Voilà. Ouais. C'est un milieu très large, très grand, tout ça. Mais quand tu es dans le milieu, que tu es bon là, de toutes les façons, les autres te suivent aussi, ça, parce qu'ils sont grands, qu'ils vont pas te suivre, ils vont pas t'écouter.
C'est ça. Très... Ouais. C'est que il y a quelque chose qui savait le cœur en fait,
c'est
et qui est pas en mode voilà. En plus les anciens, voilà, ils ont plus rien à prouver. Je dirais Yellow Man,
oui.
Même Judy Mouat, la choriste de Bob Marley avec qui j'ai collaboré aussi.
C'est ça.
Et pareil, en fait, voilà, ils ont pas ce truc à prouver. Donc en fait, ils écoutent juste de la musique et si elle est bonne, ben ils y vont en fait.
Oui.
Et ça
oui.
Qui est beau quoi en fait. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le reggae surtout.
C'est
ça. Pas si on a ça, je pense que bah, j'aurais fait du rock, j'aurais contacté des Rolling Stones.
C'est clair. Alors, ce projet spécial de Epila, de Bridge, Pacific Bridge, French Bridge, où est-ce que ça nous emmène?
Ça nous emmène, ben, en fait, là, du coup, donc là, il y a du Pacific Bridge, en effet, qui est sorti l'an passé, enfin, en début d'année, là, en fait, on avait sorti plusieurs singles l'année dernière.
Oui.
Et donc, voilà, c'était des artistes que j'avais rencontrés sur mes tournées en Nouvelle-Calédonie à Tahiti.
Oui.
Et la suite, en fait, c'était voilà, j'avais toutes ces rencontres que j'avais faites aussi, des titres en français que j'avais, et je savais pas si je les sortais sur un album, sur voilà, et je me suis dit qu'en fait cette série commençait par le Pacifique, et c'était bien de commencer par le Pacifique, le mot en lui-même est beau quoi,
oui.
Et donc faisant de la paix quand même,
oui.
Donc c'était bien de commencer par ça, et puis de voilà de revenir à mes racines aussi françaises, à l'écriture en français que j'avais sur mes premiers albums,
oui.
Ça fait longtemps que j'avais pas sorti de morceaux en français aussi pour mon public ici. Et du coup, là, on part sur un autre voyage avec donc des artistes qui sont dans le reggae, mais pas que. Donc, il y a Tairo qui est sur l'album. Hier, j'ai enregistré avec Yannis Odoa,
oui.
Qui est de Martinique. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui, oui.
Ouais, ouais. Yannis Odoa. Il y aura le chanteur de Cincy Milia, qui est un groupe de reggae français assez connu. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui. Je connais. Pas de A à Z, le milieu du reggae français, mais je le connais très bien, ce milieu, ce qui est très grand d'ailleurs.
Okay.
Ouais, il y a beaucoup d'adeptes. Voilà.
Ouais, il y a beaucoup d'artistes.
Ouais.
Et voilà, puis après, il y aura un autre groupe qui est en train de monter ici en France, qui s'appelle Ryan.
Oui.
Et enfin, il y aura un artiste qui a été pas mal connu au Canada, je crois, c'est Tété. Je sais pas si...
Tété.
Ouais.
Oui, le nom me dit quelque chose, oui.
Tété, ouais, c'était un artiste qui avait fait un énorme tube d'ailleurs, qu'il avait écrit au Canada à l'époque quand il était en tournée.
Oui, oui.
Et voilà, donc c'est des artistes voilà, dont j'aime beaucoup l'écriture, et puis avec qui j'ai aussi eu des liens humains à chaque fois. Tous les featuring que j'ai fait, les collaborations que j'ai faites,
oui.
Ça a été vraiment des rencontres avant de faire de la production. J'ai jamais fait de featuring, de maison de disque, on va dire. Ça a été toujours des artistes que j'ai d'abord rencontrés, avec qui j'ai tissé un lien, et
wow.
Après des invités.
Ouais, après collaboration, quoi, voilà, je comprends.
Ouais, voilà. Et donc, toutes ces personnes-là, j'ai un lien avec eux. Et voilà, ça donne du sens aussi, à la fois à ce qu'on dit, ce qu'on fait, et puis aussi ce qu'on partage avec les autres aussi. Il y a quelque chose d'une sincérité, en fait, qui est hyper importante pour moi dans la création.
Voilà. Ok. Ticket pour Mars, c'est un voyage musical et politique à ne pas manquer. C'est sorti là depuis le 20 mars 2026.
Le 20 mars, c'est ça, ouais.
Alors.
Puis en plus, On est en permanence en plus,
Ouais.
c'est mondial, donc.
On les retrouve sur toutes les plateformes numériques de streaming, ouais. Ouais. De toutes les
Ouais,
façons,
c'est
tout est
ça.
digitalisé maintenant, alors on peut plus s'en passer, on est tous esclaves de ça. On le veuille ou pas, on doit vivre
Ouais.
avec, voilà. Alors,
Ouais.
merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça. On va terminer. Ouais, on a encore du temps. Non, on a encore du temps là, parce qu'on est là
Ouais,
pour faire la
attends.
promo de Ticket pour Mars, là.
Ben
Alors, comment tes potes, là, tes amis, quand ils ont vu ils ont écouté ce beau travail avec ton ami Tayro, quand ils ont écouté, t'as dit, je parle de tes collègues, des confrères, consoeurs du milieu, comment ils ont réagi? Comment ils ont accueilli le nouveau-né?
le nouveau-né, bah, c'est plutôt super bien. C'est vrai qu'on a eu des retours d'artistes connus qui ont vraiment apprécié le titre, qui nous ont mis des petits commentaires et tout sur Internet. C'était chaud au cœur de quoi avoir.
Oui, ça fait du bien
Et
ouais.
puis, ouais, d'avoir toujours des retours, que ce soit partagé aussi. Et voilà, bon, on est en début de promo encore là. Ça fait à peine 10 jours que c'est sorti, donc on est encore dedans et on va continuer à promouvoir la chose comme il faut pour que ça passe. Après, c'est vrai que c'est le message est aussi très conscient. Ce titre, il est assez, on va dire, social et politique,
Et
pas
politique en
politique,
même
mais
temps, oui.
politique. Voilà.
Alors,
Donc, c'est vrai qu'il touche en plus à des sujets de maintenant, quoi, en fait.
nous à Montréal, on t'attend pour quand?
Moi je suis prêt dans mes valises hein. Non, c'est vrai, j'ai déjà tourné au Québec il y a 10 ans de ça. Je suis venu faire une tournée
Oui.
et voilà avec mes anciens musiciens et j'aimerais vraiment pouvoir revenir. C'est vrai que vous avez des jolis festivals chez vous
Oui.
et ce serait génial de pouvoir défendre ce morceau-là sur scène
J'espère que ça tombe dans de
avec
bonnes
Yannick.
oreilles.
Avec, ouais,
Voilà, il faut en parler avec
carrément.
Yannick, il faut en parler avec Yannick Truyon.
C'est ça, c'est lui qui va faire le lien, je pense, dans tout ça, mais j'espère vraiment qu'on pourra venir rapidement par chez vous.
Oui.
Puis c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette tournée que j'avais faite et la chaleur des Canadiens, des Québécois. Donc
Oui.
c'était pour moi une belle aventure. Donc je serais très heureux de venir partager ça, ouais.
Ouais, ouais,
Ouais.
ouais, ouais. Non, 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 de toutes les façons, tu auras un très bel accueil ici à Montréal. Là. Il y a la communauté logique qui est là qui va t'attendre. Et puis bon, Yannick n'a qu'à organiser
Ouais.
ça. Et puis on aura du plaisir à aller t'applaudir, toi et tes potes, quoi, je veux dire. Voilà.
Et ouais, ben,
David
j'espère bien que ce
Kerol,
sera
le jeune basque qui a grandi dans cet univers, qui a découvert la musique, le virus du reggae l'a piqué depuis ce temps. Il peut plus s'en passer. Bravo,
là. Ouais.
félicitations. On dit bon vent à Ticket pour Mars. Et au plaisir de te voir sur scène à
Merci.
Montréal. Merci David.
Merci infiniment à vous. Hein. Merci pour l'émission et pour l'invitation.
Merci, merci.
À bientôt. Au
À
revoir.
bientôt. Au revoir.
Les élites à la dérive,
leur délire, leur délire,
leurs idées de débiles,
viens ensemble délire.
T'es mal le level de devil,
les projets qu'ils dévoilent,
si voler c'est ce qu'ils veulent,
puisque c'est tout ce qu'ils veulent,
qu'ils prennent leur ticket pour Mars.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà au bout du fil, il vient nous parler de l'événement qui aura lieu ce 2 avril au Balatou, bien sûr. Voilà, le Balatou, pour ceux qui ne le savent pas, c'est situé au 4372 boulevard Saint-Laurent. Dabi Touré ne sera pas seul, il sera en complicité avec Kimi Diabaté qui va partager la scène avec lui d'ailleurs. C'est son concert international. Voilà, ça c'est la figure marquante de la scène afro-portugaise là-bas, Lisbonne. Ça veut dire que le français n'est pas sa première langue. Hein. Quand on vient de la Guinée-Bissau, c'est Dabi Touré. Voilà, lui, il a le français comme première langue. Bonjour, David.
Bonjour, ça va?
Oui, je vais bien, merci. Et toi?
Écoute, ça va très bien.
Merci.
Ça va humidement, il fait froid un peu là, mais bon, ça va.
On est en train de partir, on est en train de sortir de l'hiver là.
On est en train de sortir, c'est un peu les restes, on va dire.
Voilà. David Touré qui sera sur scène le 2 avril avec son confrère Kimi Djabaté. Voilà, et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le parcours de Dabi, c'est un compositeur, c'est un multi-instrumentiste mauritano-sénégalais qui nous fait l'honneur d'un concert en salle avec son complice dont je viens de parler. Victor, oui. Dabi, c'est un citoyen du monde, hein, celui qui refuse de se cartonner à la musique traditionnelle, mais qui démontre l'envergure de son nomadisme en chant et guitare. Est-ce que tu te reconnais comme un nomade, Dabi?
Moi, je me reconnais comme j'aurais tendance à définir tous les humains comme étant nomades. Ils se sont
ah bon, d'accord. David Touré, c'est le fils d'un membre du célèbre groupe Touré Kunda. Oh voilà, ça, ceux-là, ils nous ont fait vibrer au sein de leur reggae là, Touré Kunda là.
C'est les parents ça, oui.
Pardon?
C'est les parents ça,
oui. Oui. C'est là. Oui, c'est ce que je disais. Tu es le fils des membres du célèbre groupe Touré Kunda.
Exactement.
Voilà. Alors, est-ce qu'il s'il vit encore, comment il va?
Ça va très bien. Ils sont à la retraite presque. Hein.
Oui.
Mais ils sont toujours animés de l'énergie, de la bonne musique et toujours des bonnes vibes et des conseils qu'ils donnent autour. Mais ça va, ils se portent plus ou moins
pas mal. Est-ce qu'ils arrivent quelquefois à accepter des contrats, des spectacles?
Non, de moins en moins quand même.
Oui, c'est vrai.
De moins en moins, ça commence à dater quand même maintenant. Hein.
Oui. Oui.
Donc on essaye de continuer un peu le flambeau, quoi.
Oui.
Tranquillement, parce que ainsi est faite la vie, c'est un cycle.
Oui.
Donc ça se transmet. Mmh. Et en Afrique, on sait un peu ce que c'est que ça. Donc là, Touré Kunda a fait des choses absolument incroyables à l'époque.
Oui.
Et grâce à cela, des gens comme moi et Kimi existent aussi quelque part.
Oui.
Et d'autres artistes avant nous. Et ça continue, on se passe le relais, quoi.
Oui. Mais Dabi, toi, ton parcours, okay, est-ce que c'est papa qui t'a influencé?
Bah, disons qu'il fait partie de ceux qui ont été l'élément déclencheur.
Oui.
La musique étant partout, je dirais que quand j'étais enfant...
Tu avais dit qu'à la maison, on ne parlait que de musique.
Autour de moi, il y avait de la musique.
Oui.
Autour de moi, il y avait beaucoup de musique.
Oui.
Dans la rue, il y avait de la musique. Mmh. Pendant que les femmes faisaient les repas étaient dans la cuisine ou quand on allait aux fleurs, ou quand la journée, les heures et tous les moments sont rythmés par la musique, par des mélodies, les gens chantent tout le temps. Donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir baigné comme ça dans la musique tout le temps.
Oui.
Déjà parce qu'en Afrique, c'est souvent comme ça, la musique est souvent partout. Et elle nous aide à rythmer notre vie quotidienne, elle nous aide à supporter les moments difficiles et elle nous aide aussi à embellir les moments de joie. Et c'est vraiment partie prenante de la vie, constamment, continuellement. Donc j'ai commencé comme ça. C'est vraiment comme ça que j'ai eu la sensation de vivre. C'est grâce à ces énergies de musique tout autour. Les baptêmes, les mariages, les processions, tout un tas. Vraiment, il y avait tout le temps de la musique, quoi. Donc, c'est d'abord l'influence, elle vient de là. Et par la suite, bien sûr, quand on remarque que nos parents ou des oncles font de la musique et qu'ils le transmettent aussi d'une certaine manière.
Ouais. Tu baignais là-dedans, quoi.
Oui, c'est ça.
Sans oublier les influences que tu as eues aussi avec les différentes collaborations avec Peter Gabriel.
Oui, après, par la suite...
Comment s'est faite la rencontre avec Peter Gabriel?
Peter, c'était très simple. C'est que j'étais dans une galère pas possible. J'étais à Paris et je n'arrivais pas à trouver de label.
Oui.
Donc, j'envoyais mes démos partout et à chaque fois, on me disait « Tu es gentil, petit, mais ça ne nous intéresse pas. » Ou alors, on me répondait « Juste pas. » Donc ça a continué comme ça, ça a duré quelques 2-3 années dans lesquelles j'étais persuadé que ce que j'avais était quelque chose qui avait sa place.
Oui.
Mais je n'avais pas de retour et c'est des moments difficiles comme ça pour un artiste. Puis un jour, j'ai un ami avec qui je travaillais à l'époque, qui était réalisateur sur cet album, qui s'appelait Cyril Dufay, qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne l'enverrais pas ailleurs qu'en France ?» J'ai fait « Ouais, pourquoi pas, mais je n'y croyais pas trop. » Il m'a dit « Bah tiens, je connais... il y a un label là, tu devrais l'envoyer à Real World Records, le label de Peter Gabriel et tout. Je dis ok, pourquoi pas. Et puis on est allé comme ça,
oui,
à la poste de Nogent-sur-Marne, on a mis dans une enveloppe et puis je l'ai envoyé. Dans ma précipitation, je n'ai même pas mis de biographie, je n'ai rien mis, j'ai juste mis mon email.
Tu n'avais aucune attente?
Je n'avais absolument aucune attente, vu que ça faisait 3 ans que je refusais. Je n'avais pas de porte de sortie, donc on finit par rentrer dans une forme de... pas de négativité, mais on se disait juste, bon, ben voilà, quoi.
Ton moral était sapé, quoi. Ouais.
Voilà, les choses sont comme elles sont. Bon. Oui. Et puis je l'ai envoyé. Quelques semaines plus tard, je reçois un email du label manager qui me dit, je m'appelle Amanda Jones, je suis le label manager de Peter Gabriel. Vraiment, on ne s'est pas quitté, on ne sait pas d'où tu viens, mais ton album qu'on a reçu, on n'arrête pas de l'écouter en boucle.
C'est pas vrai.
Et je dis,
tu dois tomber de ta chaise, là.
Et là, sur le moment, je n'ai pas cru, évidemment.
Oui,
parce qu'après 3 ans de galère, tu vois, on t'envoie un message comme ça, d'un coup, la lumière, tu te dis, non, mais ce n'est pas possible, il y a quelque chose derrière. Donc elle me dit, non, mais en plus, Peter, Gabriel, on aimerait vraiment te rencontrer en personne, vraiment, on aimerait, dis-nous, quand tu reçois ce message, s'il te plaît, rappelle-nous, etc.
Wow.
Donc je réponds timidement en disant, oui, je m'appelle Dabi, blablabla. Puis là, elle me répond tout de suite en disant, bah, écoute, si tu es libre cette semaine, on te prend un billet, tu es à Paris, c'est ça? Je dis oui. Et ils m'ont pris un billet d'avion. Jusqu'à maintenant, j'y croyais pas. Jusqu'à l'aéroport, j'y croyais pas. Jusqu'à l'avion, j'y croyais pas. Et arrivé à l'aéroport de Heathrow, je vois quelqu'un qui vient me chercher en voiture. Mm-hmm. Je vois la voiture qui vient me chercher. Le mec qui me dit, voilà, je suis le chauffeur personnel de Peter, je viens te chercher. Là, je commence à me dire, c'est sérieux.
Ça devient du sérieux.
Là, oui, puis là, on fait 1 heure de route, on arrive dans les studios Real World. Et je rentre dans ce grand, énorme château comme ça. Je vois toutes ces... Là, je me dis, vraiment, c'est sérieux, alors. Je vais, on m'amène directement dans les bureaux de Amanda. Je commence à discuter avec elle. Je m'assois. Et là-dessus arrive Peter par derrière. Et il descend les escaliers. Et il vient vers moi. Et avant de me prendre dans ses bras, il se met à genoux.
C'est pas
et
vrai.
Il me dit, et il me dit, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça venant du continent.
Peter Gabriel qui se met à genoux devant toi.
Il se met à genoux devant moi. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Ça fait partie, si tu veux, des choses qui vous donne foi à la vie, quoi. Parce qu'après, quand vous traversez comme ça... Pour moi, la leçon, c'était ça. C'est qu'après toutes ces années où c'était vraiment la noirceur...
Que tu appelles année de galère.
C'est ça. Puis d'un coup, vous avez quelqu'un comme lui qui arrive, qui dit non. La vérité, c'est que c'est vraiment bien. C'est même au-delà de bien. Donc là, ça confirme toutes vos attentes. Ça confirme tout ce que vous êtes battu pour. Pourquoi vous vous êtes battu jusqu'ici. Et c'était émotionnel, j'étais très très ému, je l'ai rattrapé en lui disant mais qu'est-ce que tu fais.
Dabi, c'est beau entendre tout ça.
Voilà.
Ouais. Vas-y, je t'écoute, continue, tu n'arrêtes pas.
Puis après, on a discuté, parlé musique, il m'a dit, j'espère que vous vous entendrez bien pour la suite avec les avocats, etc. C'est passé quelques semaines et là-dessus, il m'a proposé de faire sa tournée mondiale, Growing Up Tour. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas, je ne peux pas dire non. Donc je faisais la première partie et il m'a demandé de faire aussi une chanson avec lui, In Your Eyes, que Youssou N'Dour faisait avant.
Est-ce que, au moment où quand tu écoutais Peter Gabriel te parler comme ça, tu avais une respiration normale?
J'étais ému, j'avais pas une respiration tout à fait normale, mais on va dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Mais vu que j'avais beaucoup de recul par rapport, grâce à la musique encore une fois,
oui.
Quand vous êtes dans quelque chose de vraiment... Et puis il venait de se passer des années et des années et des années où c'était l'obscurité, donc j'étais pas non plus...
Oui, pour toi c'était une éternité quoi. Voilà.
C'était une éternité, mais c'était la délivrance d'une certaine manière. J'étais
c'est
un peu
ça,
délivré qu'autre chose,
ça,
et soulagé enfin que...
C'est ça.
Et je me disais, puisque... Peter Gabriel avait à l'époque et toujours un contrat avec des labels comme EMI, Virgin Records. Tout ce qu'il sortait, c'est eux qui le sortaient derrière. Ces mêmes labels m'ayant refusé en France se sont retrouvés sur leur bureau avec mon disque. Oh. J'ai trouvé ça. Ça, c'était vraiment mon plaisir quand je suis revenu en France et que tous ceux qui m'avaient plus ou moins refusé même de prendre au téléphone mais étaient là à m'accueillir en me disant c'est formidable, etc.
Ce qui t'arrive, ce que tu es en train de vivre.
C'est ça, je me suis dit, déjà, tu vois, ça c'est vraiment une leçon, comme quoi il faut vraiment, vraiment tenir jusqu'au bout. Il ne faut jamais lâcher, en fait.
Oui.
Parce que si tout est allé, tout est relatif. Tout est relatif dans la vie.
Oui.
Il a suffi qu'un seul homme dise non, ça c'est bien, tout le monde a trouvé ça bien après. Et grâce à lui, l'album est sorti et a été l'album de l'éclaircie de la rentrée, comme le disait le journal Le Monde à l'époque.
Oui.
Et ça a été vraiment pour moi un départ très rapide, très présent partout. Ça a été vraiment des moments de bonheur absolu, surtout la tournée avec lui, où je me suis aussi en même temps tout de suite retrouvé d'un seul coup dans une tournée, une production quand même assez énorme, où j'étais tous les soirs devant 20 à 60 000 personnes, à devoir chanter tout seul pendant... D'abord, ça a commencé, ils m'ont donné 15 minutes, ensuite ils ont rajouté 20 minutes, ensuite je faisais des 45 minutes. Et c'était vraiment... Je n'en dormais pas parce que tous les jours il fallait voyager, tous les jours il fallait que je rejoigne la tournée. Et on n'a même pas fait de répétition. Et c'est ça qui est formidable avec...
Mais vous êtes des professionnels, vous n'avez pas besoin de ces milliers de répètes avant de...
Je trouvais qu'il avait quand même beaucoup confiance parce que pour me laisser monter sur scène et chanter avec lui sur une chanson sans avoir travaillé avec lui, oui. Je trouvais qu'il avait beaucoup de... Il avait le sens de la confiance aussi.
Oui, non donc seulement ça. Tu te rappelles quand tu as commencé à parler de ça, ils t'ont dit qu'ils ont écouté tous les jours ton album avant de t'appeler.
Exactement.
Voilà, donc ils se sont habitués à ton style.
Ouais, ils se sont habitués vraiment. Et non, c'était vraiment, on va dire, un beau démarrage, quoi.
Bravo, bravo. Ouais. Et puis, je suis très content de que tu partages ça avec nous, avec nos auditeurs, parce que là, vraiment, ce truc, parce que je me suis dit, cette histoire de Peter Gabriel, je pense que ça a été un déclenchement même dans le départ de la carrière de Dabi.
Ça a été un élément déclencheur hyper important, bien sûr. Sans ça, j'aurais peut-être encore tourné en rond là.
Pas forcément. Ouais, si la porte A n'est pas ouverte, peut-être que la porte B sera ouverte, pourquoi pas.
Oui, exactement, la B serait ouverte d'une façon ou d'une autre.
Ouais, d'une façon ou d'une autre. Alors, on va t'écouter un peu pour ceux qui t'ont jamais écouté.
D'accord.
J'ai choisi Kunta.
Ok, super.
Oui, c'est la voix de Dabi Touré qu'on vient d'entendre comme ça, avec ton... Bravo, Dabi.
Merci.
C'est du lourd, hein, c'est pas... Ouais, c'est du lourd, c'est du lourd.
Merci beaucoup.
C'est tout ce que tu viens de nous raconter là, vraiment, Dabi, je te dis que sincèrement, il y a des gens qui vont écouter ça, vont dire, oh, waouh. Ouais. C'est oser même envoyer quelque chose comme ça à la maison de production de Peter Gabriel sans aucune attente et après c'est bon. C'est
exactement.
C'est la lumière du jour qui, voilà, c'est la ça. Bénédiction totale.
Exactement.
Il y a des gens qui disent, ouais, c'est le fils de Turu Kundala. Alors, ouais. Ça n'a même pas le travail que tu as fait en arrière là-bas. Et tu as envoyé ce truc-là à la maison de production sans aucune attente. C'est arrivé comme ça. Ils ont écouté avant même de t'appeler.
C'est ça, ils ont écouté.
Peter Gabriel qui vient, qui se met à genoux devant toi, tu t'imagines. Mm-hmm. Alors là, c'est pas donné à tout le monde. Ça dit qu'il a vu du professionnalisme, du talent là-dedans. Il se dit, mais non. C'est pas ce garçon qui va faire du salam alek demain, moi, c'est moi qui vais m'accroupir devant lui. Voilà. Bravo à toi. Et puis bon, à tes étoiles merci aussi, il ne faut pas l'oublier. On a des étoiles
qui nous permettent
d'aller de l'avant.
Et puis,
comment s'est faite la rencontre avec Kimi Gabaté? Comment il se retrouve alors, sur scène avec toi?
Kimi, il est donc de Guinée-Bissau.
Oui.
Et moi, je suis, comme tu le sais, plus de la Mauritanie, du Sénégal.
Oui.
Mais mon père, quand il était plus jeune, ils ont grandi, ils sont nés en Casamance.
Oui.
Bien sûr, la Casamance, qui est la région sud du Sénégal, c'est à pas très loin d'ailleurs de la Guinée-Bissau.
Laisse-moi faire une petite précision. Moi, j'appelle la région forestière du Sénégal.
Exactement.
Le grenier du Sénégal, quoi. Voilà.
C'est ça, le grenier du Sénégal.
Mm-hmm.
Et c'est à quelques centaines de kilomètres de... C'est même pas... Pour aller de la Casamance à Guinée-Bissau, c'est à peu près combien de... C'est pas loin.
C'est pas loin, côté. Oui. Mm-hmm.
Genre, je suis avec... Kimi est assis à côté de moi, je suis en train de lui demander en même temps.
Ok, d'accord. il parle pas français, Kimi?
Il parle pas français beaucoup, non.
Oui, c'est ce qui fait que...
Mais c'est pas loin du tout, c'est vraiment à côté.
Oui.
Et donc, deux de mes oncles ont passé leur enfance là-bas. Ce qui fait qu'il parle créole portugais.
Okay.
Dans la musique des Touré Kunda, vous avez aussi créole portugais et tout ça.
Et le portugais, c'est la langue officielle de la Guinée-Bissau.
Oui, c'est ça. Ouais. Comme en Casamance, les Portugais ont colonisé la Casamance, le sud du Sénégal.
Oui.
Avant, c'était les Portugais. Ensuite, il y a eu les Français et les Anglais qui sont venus. C'est ça. Ouais. Ce qui fait que toute cette région-là a une histoire commune à ce niveau-là.
Mmh.
Et quand j'ai rencontré Kimi par le biais de Jacob Edgar, qui a été mon producteur et maison de disques, en 2015, avec qui j'ai fait pas mal de choses, un label qui s'appelle Kumbancha Records, qui se situe à Burlington, aux États-Unis.
Oui.
Un label assez prestigieux, qui fait de la world music, qui signe des artistes super et qui fait un travail extraordinaire. Donc, Kimi est chez lui actuellement. Et il a pensé à moi directement en disant, tiens, il y a Kimi qui vient à Montréal. Tu viens à Montréal, ce serait cool de vous faire rencontrer. Mais il n'avait aucune idée à quel point on allait tous les deux être très, très... heureux de se connaître, parce que quand il a commencé, quand on s'est assis, qu'on a commencé à jouer, tout simplement, en fait, on jouait la même musique. Parce que moi, je jouais ce qu'il jouait, me parlait, je savais de quoi être papy. Il y avait des langues, des mots, des fois qui revenaient.
C'est la rencontre de belles âmes.
C'est vraiment la rencontre de deux univers, effectivement, de deux âmes différentes,
oui,
qui sont liées par les ancêtres, d'une certaine manière.
C'est ça.
Ce qui est assez... incroyable, c'est que lui a encore... Moi, j'ai été colonisé, par les Français.
Oui.
Eux, par les Portugais. Malgré tout ça, malgré le fait qu'ils parlent portugais et que moi, je parle français, c'est deux langues qui nous éloignent, finalement, mais celles qui nous lient et qui nous rapprochent, ce sont les langues ancestrales, c'est-à-dire le Suling, tout ce qui est mandingue.
C'est la langue des ancêtres.
Voilà, tout ce qui est mandingue, c'est-à-dire que dans son répertoire, il va des fois voyager, il va venir près du Mali, je le sens. Des fois, il va aller au Sénégal. C'est assez incroyable. Et moi, je vais le rejoindre facilement. Et lui, il va se rendre compte que je suis à l'aise sur telle ou telle sonorité, sur telle ou telle autre sonorité.
Oui.
Et du coup, on a l'impression vraiment de juste... Puis on se comprend dans la façon de poser les choses, les rythmes, etc. C'est vraiment la même chose.
C'est ça la beauté c'est la beauté de l'art aussi, de la musique en général.
Exactement.
Particulièrement,
exactement. Oui. Surtout quand ça se passe comme ça.
Oui.
Ça a une dimension beaucoup plus frappante et beaucoup plus
authentique, réelle, vraie.
Oui, exactement. Il y a quelque chose vraiment qui se passe où on se dit ces grandes phrases. Généralement, on dit oui, la musique, c'est le langage universel, tout ça. Mais là, ça
j'adore.
Prend tout son sens.
La première fois que je l'ai entendu, c'était de la bouche de Gimi Cliff à un spectacle en Suisse.
C'est ça.
The music is a universal language. Tout le monde. On n'a même pas besoin de comprendre les mots.
Non.
On se laisse emporter, c'est tout, quoi.
Mais là, ça prend vraiment tout son sens.
C'est ça.
Ça rapproche et ça a été une connexion pour nous. Mmh. Donc ça, ceux qui auront la chance d'assister à ça...
De faire le déplacement au Balatou.
Mmh. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose à voir parce que c'est une connexion et c'est une musique qui jaillit tout simplement.
Les absents auront tort.
C'est ça.
Tant pis pour eux. Tant mieux pour les présents et tant pis pour les absents. Alors, comment tu communiques dans quelle langue avec Kimi?
Kimi, on parle en français.
En français. Il se débrouille, quoi.
Il comprend. Il comprend si je parle doucement. Si tu veux, je peux te le passer un peu deux secondes. Tu dis bonjour.
Oui.
Hein? Après, c'est attends, bouge pas.
Oui.
Allô.
Allô, bonjour Kimi.
Bonjour, ça va?
Oui, je... Ah là, ok, oui. Là, si je peux poser une question, mais ça, que c'est encore mieux. Oui, je vais bien. Est-ce que tu es prêt là avec ton frère, ton ami Dabi là pour le spectacle?
David Touré. Oui. On est là ensemble sur le pétition et après demain un concert.
C'est ça. C'est pour ça que je suis en train d'échanger avec vous là. Merci d'être là et puis bon ben... Comme je disais à Dabi, les absents auront tort et bon, les présents, ils vont en profiter.
Ok, merci beaucoup.
Bon spectacle en complicité avec, en compagnie de Dabi.
Ok. Mon frère, c'est pas bon.
J'ai compris. Okay,
je dois définir aussi la répétition avec Dabi. Alors, j'ai pas fatigué ma tête et pour la langue, l'industrie de langue.
Non, ne t'en fais pas avec ça. On m'a déjà dit que le français n'est pas ta première langue. Ne t'en fais pas avec ça.
Oui, j'aime beaucoup le français, tu sais. Et seulement, j'habite à Portugal, ça fait longtemps, ça fait 30 ans.
Tu vis à Lisbonne.
Oui, alors je parle tous les jours portugais, j'ai oublié beaucoup de français.
Oui, c'est pas grave, on t'a compris. Même ce que tu dis, on entend très bien.
Ok.
Merci Kimi, Gabaté, allez-y le voir, là, le 2 OSR se passer au Balatou.
Merci beaucoup.
Dabi.
Allô.
Oui, je vous souhaiter, merci de... Comment dirais-je, très beau spectacle avec lui et sa complicité.
Merci.
Et puis bon, belle, comment dirais-je, on dit merci aux Nuits d'Afrique.
Oui.
D'avoir pu organiser tout ça. On va écouter une de ses pièces, Ali Donké.
Ali Donké.
Et je vous dis bon vent tous les deux.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Yo go chillin'.
Merci Mathieu. On merci la fin de l'émission. Oh, oui. On dit merci aussi à notre premier invité, David Cairo, avec Tairo. On dit merci à Dabi Touré et Kimi Kabaté, qui seront en spectacle au Balatou, là. Ce 2 avril au 43. 43, c'est Balatou, c'est la chouette, 43, 72, 52. Saint-Laurent, rapidement. Voilà. Balatou. Oui. Merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis Belle Lurette.
43, 72.
Oui, 72. 43, 72 au Bleuva Saint-Laurent, c'est le Balatou. Voilà, allez-y les voir. C'est aujourd'hui, là, ouais, le 2. Allez-y les voir. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vos minutes. C'est vos secondes. Et sur ce, on continue avec Kimi Kabaté. Je vous dis ciao.